Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens du jeudi 3 mai 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
Alors vous me disiez que demain 4 mai, c'est la journée Star Wars?
Oui.
Et c'est pour ça que vous avez mis votre
ben
T-shirt
non, en fait,
Stop Wars.
Parce que je l'ai appris aujourd'hui en préparant mes éphémérides de demain, que demain sera la journée Star Wars.
Ah, ben on en reparlera demain.
Ben voilà.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pas mal de choses au
oui,
menu?
Oui, ma feuille est pleine.
Ah oui, ben on vous écoute.
Merci beaucoup. Je commence le 3 mai 1536. Jacques Cartier enlève un chef des Iroquois, Donnacona, et ses deux fils. Donnacona mourra en France trois années. Après,
plus tard.
Oui, merci. Mm-hmm. En 1539. 1833, l'Empire ottoman reconnaît l'indépendance de l'Égypte. Nous avons en 1849, les citadins de Dresde se révoltent. La troupe prussienne tire dans la foule et on recherche à ce moment Richard Wagner, pensant qu'il était blessé. 1922, à l'île du Prince-Édouard, les femmes obtiennent le droit de vote. 1922 toujours, le quotidien La Presse installe sur son toit l'émetteur d'une radio montréalaise ayant pour lettre d'appel CKAC.
Oh, CKAC qui n'existe plus.
Mais non. 1936, le Front populaire gagne les élections en France. Léon Blum adoptera la semaine de 40 heures et les congés payés. En 1948, toujours un 3 mai, la Cour suprême des États-Unis invalide les lois, contrats et autres textes interdisant aux Noirs d'être propriétaires fonciers. En 1959, le Vatican béatifie une première Canadienne, Marguerite Diouville, qui créera les Sœurs Grises de Montréal. En 1963, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une bombe éclate devant la Légion canadienne. Le FLQ revendique l'attentat. Nous avons, en 1968, des bagarres entre militants gauchistes et policiers à la Sorbonne, amorce un mois d'agitation à Paris. 1971, entrée en onde d'une télévision américaine non commerciale, la Public Broadcasting System, PBS. 1979, avec la victoire des conservateurs, Margaret Thatcher, née Roberts, devient la première femme chef du gouvernement anglais. À Ottawa, en 1994, la Cour d'appel fédérale invalide la loi imposant les pensions alimentaires pour enfants. À Genève en 2001, toujours un 3 mai, les États-Unis perdent leur place à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où ils siégeaient depuis 1947. 2003, grabuge au Nouveau-Brunswick, 4 bateaux et 2 conserveries sont incendiés à Chipaga dans le conflit sur le quota de crabes ou de crabes. En 2006,
c'est bon.
Zacharias Moussaoui est condamné à la prison à vie pour son rôle dans les attentats du 11 septembre 2001. Le jury du procès renonce à la peine capitale. Et 2011, le chef libéral fédéral Mikhail Ignatieff annonce sa démission. Pour ce qui est des naissances, nous avons Niccolò Machiavelli, auteur du traité Le Prince, qui est né en 1469. 3 mai. Léopold Simoneau, le ténor, né à Saint-Flavien, au Québec, est né en 1918. Et le chanteur et poète Georges Moustaki est né un 3 mai en 1934. Et pour ce qui est des décès, 1987, nous perdons la chanteuse Dalila.
Dalila?
Dalila, oui.
Dalida?
Dalida, excusez-moi. Je savais que, en voyant le mot, je me suis dit, Mathieu, tu peux t'en faire jouer.
Vous avez pensé à Samson et Dalila.
Voilà.
Ouais.
Et qui est décédée en 1987, qui était née, elle, en 1934.
Elle est morte relativement jeune.
Tout à fait.
La cinquantaine.
C'est
très
tout.
Triste. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et à la une de La Presse, sondage Ipsos La Presse, la CAQ toujours en tête, mais à 5 mois du scrutin, a-t-elle monté trop tôt? On a une photo de François Legault, chef de la coalition Avenir Québec. Sinorama des finances en eau trouble. Il manque 11 millions dans les fonds des clients de la populaire agence spécialisée dans les voyages en Chine. Journée mondiale de la liberté de la presse pour une presse libre. Et la chronique de Mario Girard avec le visage de Denis Coderre. Coderre débarque au 98,5. Sondage Ipsos, la presse, avantage CAQ menée du 29 avril au 2 mai auprès de 2001 internautes. L'enquête d'Ipsos observe que la CAQ obtient 35 % des intentions de vote, un point de mieux qu'en février. Les deux plus récents sondages légers montraient la CAQ en baisse, passant de 39 % jusqu'à 34 % en avril. Selon Ipsos, le Parti libéral du Québec, PLQ, obtient 32 % des intentions de vote, une hausse de 2 points par rapport à son enquête de février, le PQ glisse à 20 %, un recul de 3 points et Québec solidaire, QS, marque le pas à 8 %. Alors, pour terminer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, Legault en avance, François Legault est toujours en avance comme meilleur premier ministre. Une question où il devance clairement Philippe Couillard, 27 % contre 20 %. En octobre 2017, M. Legault avait obtenu 23 % et son adversaire libéral était déjà à 20 %. Mauvaise nouvelle pour Jean-François Lisée qui glisse à seulement 11 % de popularité, une perte de 3 points par rapport à octobre dernier. La chronique d'Yves Boisvert intitulée « Quel gâchis ». Celle-là, elle est difficile à avaler. Je veux bien trouver les explications juridiques, mais ce qui frappe en pleine face comme un coup de madrier, c'est ce résultat catastrophique. Acquitté. Tous. Zampino, Catania, tout le monde. Quand on est l'UPAC, même si à l'époque c'était l'escouade Marteau, on ne peut pas accuser le numéro 2 de la Ville de Montréal et un entrepreneur en construction de cette envergure et raté son coup aussi lamentablement. Quand on est le directeur des poursuites criminelles et pénales, qu'on dépose des accusations aussi graves, aussi socialement lourdes de conséquences, on ne peut échouer comme ça. Je sais, aucun résultat n'est garanti, c'est vrai, l'UPAC a obtenu plus d'une centaine de condamnations par aveu de culpabilité, notamment du maire de Laval. Mais voici venu le temps des tests majeurs. L'affaire des compteurs d'eau, le procès de Nathalie Normandeau, sans compter les enquêtes actives visant Jean Charest et Marc Bibot ou Guy Ouellet. Avec cette fin en queue de poisson, comment ne pas s'inquiéter de la qualité de la preuve dans les autres dossiers? Dira-t-on, comme ici, qu'il y a une preuve de mauvaise gestion, mais pas de preuve ou pas assez d'un complot criminel, c'est-à-dire d'une véritable intention criminelle? Voilà ce qui fait mal à la lutte anticorruption ce matin. La crédibilité de l'UPAC et de ses procureurs est mise à mal. Pas de preuves directes ou indirectes, rien de tangible, écrit page après page le juge Yvan Poulin, dans ce jugement d'une centaine de pages. En passant, ce magistrat, ex-procureur fédéral, est un des meilleurs juristes de la Cour du Québec. Je n'ai pas assisté au procès, alors c'est difficile d'évaluer la qualité des témoignages rendus. Mais à la presse, nous sommes plusieurs à avoir suivi pas à pas l'enquête d'André Noël sur le scandale du Faubourg Contrecœur, à avoir écrit là-dessus. Quel scandale? Vente au rabais de terrain de la Ville de Montréal à Catania Construction. Appel d'offres douteux. Pressions internes. Tout ça sur fond de copinage entre Franck Zampino et les Catania. Sans parler du financement politique illégal. La commission Charbonneau en a fait un chapitre entier. Il est accessible en ligne, page 254 et suivante. Je les ai relus hier soir et c'est à vous donner la nausée quand on voit le résultat judiciaire 5 ans plus tard. Le crime de corruption est un des plus difficiles à prouver. Il se fait entre initiés, les témoins sont par définition complices du crime, il n'y a pas de victime. Enfin, la victime, c'est le public, c'est-à-dire personne. Mais dans ce cas, avant même le début du procès, un des 9 accusés s'est avoué coupable. Michel Gauthier, un urbaniste, le plus « petit poisson » entre guillemets du groupe. Il n'a pas reçu d'argent, il a simplement aidé ses associés à obtenir un contrat en siégeant à un comité. Avant l'appel de qualification, M. Gauthier savait que Catania avait été choisi, a déclaré maître Nicole Martineau à la Cour en 2016 quand il a plaidé coupable. En d'autres termes, il était un rouage essentiel pour écarter toute concurrence. 2 ans plus tard, ce Gauthier se retrouve seul avec un casier judiciaire. Il aurait donc commis un crime de complot pour une fraude qui n'a pas existé? C'est un résultat illogique, évidemment. Comme si le gars qui tenait le sac avouait être complice d'un hold-up qui n'a pas eu lieu. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé que la preuve n'était pas suffisante. Si vous avez rencontré Franck Zampino une seule fois, vous ne l'avez pas oublié. Physique qui dégage un contrôle parfait, avec sa voix lente et grave à hypnotiser un fakir, avec cette intelligence supérieure et ce souci du détail. Je ne doute pas qu'il ait impressionné le juge à son procès pour corruption. Zampino a expliqué en détail quelles étaient ses fonctions, qu'il ne s'occupait nullement des dossiers immobiliers, que la vente des terrains de contrecœur, c'était l'affaire de Martial Filion, un ex-chef de cabinet de Gérard Tremblay, Gérald Tremblay tombé en disgrâce avant de devenir responsable du bras immobilier de la ville. Et comme ce Filion est mort, il est très commode de lui faire porter le blâme pour toutes sortes d'irrégularités. M. Zampino a également expliqué que Bernard Trépanier, le financier de son parti, M. 3%, n'avait aucune fonction officielle et n'avait donc pas agi dans cette histoire. La commission Charbonneau a pourtant noté que Trépanier avait appelé Filion au moins 863 fois entre 2005 et 2010, y compris en plein pendant la réunion qui devait choisir le constructeur. Un témoin à la commission a dit que Filion s'en remettait à Zampino qui tirait les ficelles par derrière. À la commission Charbonneau, de nombreux témoins ont dit avoir remis des dizaines et des centaines de milliers de dollars à Trépanier pour avoir accès au contrat de la ville. L'ingénieur Michel Lalonde, au cœur de la distribution des contrats entre firmes, a été un témoin clé de la couronne. Il a obtenu une immunité de poursuite pour témoigner contre ses anciens complices dans ce système de collusion. Mais le juge Poulain n'a pas retenu son témoignage sur les points cruciaux. Il disait notamment avoir entendu Zampino dire que Catania devait avoir ce contrat. Zampino a nié avec aplomb. « Oui, le couple Zampino fréquentait le couple Catania », note le juge. Oui, il a été invité en Floride, dans un hôtel Trump, à 459 $ la nuit à l'époque. Trépanier y a également séjourné et reconnu que Catania avait payé son séjour. Zampino affirme l'avoir payé, mais il a été incapable de le prouver à la commission. Certes, M. Zampino s'est fait offrir un job chez Catania après sa démission, mais après de brefs contrats, il a décliné, préférant aller chez Dessau, grand pourvoyeur de fonds politiques illégaux et grand bénéficiaire de contrats de la ville. Mais ces manques de jugement et d'éthique ne sont pas une preuve de malversation criminelle, écrit le juge, qui conclut même « Aucune preuve présentée au procès ne permet d'inférer directement ou indirectement que M. Zampino aurait joué un quelconque rôle dans cet exercice. La couronne n'a même pas pu prouver le financement politique illégal de Catania, que le juge estime en parfaite conformité avec la législation applicable en cette matière. Bref, c'est un ratage total. Oh, j'oubliais. Il est incontestable, écrit le juge, que messieurs Martial Filion, le mort, et Daniel Gauthier, le coupable cocufier de l'histoire, ont commis des malversations. Pour qui? Avec qui? Au profit de qui? Personne, apparemment.
À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe. En scandant notre ça ira contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. On nous a vus, c'était hier, qui descendions jeunes et fiers dans une folle sarabande. en allumant des feux de joie, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plates-bandes. Jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé Coulu, leur femme qu'ils ne touchaient plus. Nous avons fécondé leur fille. Dans la mare de leur canard, nous avons lancé goguenard, force pavée, quelle tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur dieu cul par-dessus tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises. Alors, ralentissant le pas, on fit la route à la papa, garbraillant contre les ancêtres. La troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Tous ces gâteux, ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis, chancelant dans leur carapace. On les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe.
Maître Brassens, c'est sa chanson « Le boulevard du temps qui passe ».
À la une du Devoir de ce jeudi 3 mai, procès Faubourg contre cœur, la preuve était insuffisante. Franck Zampino, Paolo Catania et quatre co-accusés sont acquittés des accusations de complot, de fraude et d'abus de confiance. On a une photo sous laquelle on peut lire « L'ancien président du comité exécutif de Montréal, Franck Zampino, a été blanchi des accusations qui pesaient contre lui ». Université, les études féministes gagnent en popularité même auprès des hommes. Les mouvements de dénonciation des dernières années ne seraient pas étrangers à cet intérêt plus marqué. Journée de la liberté de la presse, la logique infernale de l'information gratuite, la survie de la presse libre est entre les mains du public, croit le directeur de Mediapart. Culture en retard d'un rodéo, la chronique d'Odile Tremblay sur le film The Rider. Pollution de l'air, le tueur silencieux continue de faire des ravages, 7 millions de morts. Diplomation, la comparaison avec l'Ontario est injuste, dit le ministre de l'Éducation. La pollution de l'air tue 7 millions de personnes dans le monde et nuit à la santé de 90 % des humains, selon un rapport dévoilé mercredi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Si le phénomène culmine dans certaines mégapoles du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, des mesures prises dans certaines villes comme Paris permettent déjà d'anticiper une baisse de la mortalité et des maladies associées à ce tueur silencieux. Dans son rapport, l'OMS rappelle que la pollution de l'air fait désormais plus de victimes à l'échelle mondiale que le sida, la tuberculose, les accidents de la route et le diabète réunis. Si la situation est préoccupante dans certaines villes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, notamment en Inde, où les niveaux de pollution coûtent la vie à 1 million d'Indiens chaque année, elle s'améliore légèrement en Europe et en Amérique. Selon l'organisme qui mesure l'évolution de la situation grâce à une banque de données, regroupant les concentrations de PM dans l'air ambiant de 4300 villes dans 108 pays. Dans la foulée d'engagements pris pour agir sur les changements climatiques, plus de 96 villes se sont réunies sous l'égide de l'organisme C40 et une douzaine d'entre elles se sont engagées par diverses mesures à réduire de façon notable leurs émissions de gaz à effet de serre. Paris, Mexico, Rome et Copenhague ont déjà entrepris de bannir les véhicules diesel de leur centre-ville d'ici 2025. Le député d'Argenteuil, Yves Saint-Denis, expulsé du Parti libéral du Québec en raison d'allégations d'agression et d'inconduite sexuelle, a fait un retour à l'Assemblée nationale cette semaine. Il s'est présenté au Salon Bleu mardi et mercredi. Il est désormais assis près des députés Jerry Sklavounos et Pierre Paradis, aussi expulsés du caucus libéral en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. Aucun des trois hommes ne fait face à des accusations. Yves Saint-Denis ne s'est pas adressé aux médias présents à l'Assemblée nationale. Le député conservateur ontarien Gordon Brown a été retrouvé mort dans son bureau de la colline du Parlement à Ottawa mercredi matin. La cause du décès n'a pas encore été confirmée. M. Brown était âgé de 57 ans. Selon des sources au sein du parti, M. Brown avait joué au hockey en matinée avant de se rendre à son bureau parlementaire. Élu député pour la première fois en juin 2004, il avait été whip des conservateurs après la défaite du parti en octobre 2015 et jusqu'en juillet dernier, après l'élection du nouveau chef Andrew Scheer. Pierre Marchand, le cofondateur de la chaîne de télévision Musique Plus, a été acquitté de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, dont viol d'une mineure. Le procès criminel du producteur de musique devait commencer mercredi au Palais de justice de Laval, mais il n'aura finalement pas lieu parce que la Couronne a décidé de ne pas déposer de preuves, ce qui a mis fin aux procédures criminelles mercredi matin et mené à l'acquittement de l'accusé âgé de 60 ans. Il avait été accusé en 2017 pour des faits remontant au début des années 80 alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Santé Canada, dis-je bien, s'apprête à rendre obligatoire l'ajout d'un autocollant de mise en garde sur les opioïdes obtenus sur ordonnance et la remise d'un document explicatif aux patients. C'est la première fois que le gouvernement fédéral impose par règlement l'ajout d'un autocollant de mise en garde et la distribution d'un dépliant d'informations pour un médicament délivré en pharmacie. Selon un communiqué publié par Santé Canada, l'étiquette de mise en garde collée sur le contenant remis au patient va indiquer que les opioïdes peuvent causer une dépendance, la toxicomanie et une surdose. Autisme, des signes avant-coureurs détectables chez les nourrissons. L'enregistrement de l'activité électrique du cerveau par électroencéphalographie, EEG, permet de prédire dès l'âge de 3 mois si un enfant développera un trouble du spectre de l'autisme, révèlent des chercheurs du Boston Children's Hospital. Un diagnostic aussi précoce permettrait d'intervenir bien avant l'apparition des symptômes et ainsi de prévenir possiblement certains d'entre eux. Actuellement, un trouble du spectre de l'autisme, TSA, n'est diagnostiqué que sur la base de symptômes comportementaux qui n'apparaissent que durant la seconde année de vie de l'enfant ou même plus tard. Or, comme un développement atypique du cerveau précède vraisemblablement ces symptômes de plusieurs mois, voire de quelques années, une période cruciale du développement durant laquelle on pourrait intervenir est donc perdue si le diagnostic ne repose que sur des manifestations comportementales, souligne d'entrée de jeu les trois chercheurs du Boston Children's Hospital et la Harvard Medical School et de la Boston University qui signent un article dans Scientific Reports. L'ancien grand argentier du Vatican, le cardinal australien George Pell, subira finalement deux procès pour agression sexuelle. L'avocat du cardinal Pell, Robert Richer ou Robert Richer, a expliqué que certaines accusations concernent l'époque où son client était prêtre à Ballarat dans les années 1970 et d'autres l'époque où il était archevêque de Melbourne dans les années 1990. Monsieur Richter a dit à la juge Sue Pullen qu'il s'agit d'accusations d'une nature complètement différente qui sont parfois séparées par deux décennies. Le cardinal Pell est le plus haut dirigeant du Vatican jamais accusé dans le cadre du scandale d'agression sexuelle qui éclabousse l'Église. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, recommande d'autoriser la minière ArcelorMittal à étendre l'imposant parc de résidus de sa mine de fer de Mount Wright, près de Fermont. Le projet doit permettre la poursuite de l'exploitation de sa mine de fer jusqu'en 2045. ArcelorMittal prévoit de produire 1 318 millions de tonnes de résidus miniers sur une période de 30 ans, soit 6 fois plus que la mine de Malartic. Pour poursuivre son expansion à éviter la fermeture de la mine, ArcelorMittal doit donc agrandir les sites où sont entreposés les résidus de l'exploitation. Le BAP précise que ce projet entraînera la destruction de 11 lacs, 15 étangs et 25 ruisseaux. La minière a donc prévu un programme de restauration pour compenser la perte de milieux naturels. Et le Sénat se rend aux arguments du Québec, permettre aux provinces d'interdire la culture de cannabis au foyer est élevé au rang de priorité par le comité sénatorial. Le pire scénario, ce serait le scénario où on se dirige vers une contestation judiciaire, dit André Pratt, sénateur indépendant.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent monotone, quartier latin. Quartier latin, quartier latin. Chez Dupont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette, quartier latin, quartier latin, quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème et ce spleen qui traînait dans sa traîne, j'avais rien, ni regret, ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Ce vieux prof qui parlait à son aise, très bien, sauf que c'était pour les chaises. Aujourd'hui, un diplôme, ça se rupine. Aux amphis, tu pointes comme à l'usine. Quartier latin. Quartier latin, quartier latin. Les années, ça dépasse comme une ombre. Le passé, ça repasse et tu sombres. Rue Soufflot, les vitrines font la gueule. Sans un mot, je me débine, je ferme ma gueule. Je retrouve plus rien, tellement c'est loin. Le quartier latin. Le quartier latin.
Léo Ferré, sa chanson « Quartier latin ».
Journal de Montréal de ce 3 mai, pots de vin de centaines de milliers de dollars, ristourne de 3 à 5 voyage à 1 400 $ par jour, piscine creusée et plan de maison sur le bras d'entrepreneurs, selon l'UPAC Petite Mafia à Terrebonne. Le bureau d'enquête, en pages 4 et 5, qui nous fournit un article, et à la une, on voit la photo de Jean-Marc Robitaille et celle de Daniel Bellec. Il vous cache les plus gros contrats du Québec. Pêche au saumon pour les riches, le ministre a une explication différente. Vive le printemps, gratuit à l'intérieur, 40 pages d'aménagement extérieur. Photo impressionnante à la page 2. Distraite, elle tombe dans un immense trou. Une jeune conductrice s'est retrouvée au fond d'un trou qu'elle n'avait pas vu, d'une profondeur d'environ un mètre hier après-midi sur la rue Sacré-Cœur à Longueuil. L'automobiliste de 21 ans s'en est sorti avec des blessures légères seulement qui n'ont pas nécessité un transport à l'hôpital. La rue était barrée pour des travaux, mais la jeune femme a joué de malchance puisqu'elle s'est engagée dans la voie juste après que des barricades avaient été momentanément retirées pour permettre le passage d'un tracteur qui venait remplir le trou. La conductrice a poursuivi sa route sans voir crevasse assez grosse pour qu'un véhicule puisse y entrer complètement. Le véhicule a dû être sorti de l'immense cavité à l'aide d'une dépanneuse, non sans quelques dommages. Moins cher à démolir qu'à rénover, des écoles de la région de Montréal sont considérées comme 100 % vétustes par le ministère de l'Éducation. Dans le gymnase, il y a un plafond suspendu qui est hyper endommagé. Ça pendouille, ça commence à se déchirer, témoigne un membre du personnel qui travaille au pavillon Charles Ducharme de l'école du Trait d'Union à Sainte-Thérèse et qui préfère garder l'anonymat. Ce bâtiment fait partie des écoles primaires et secondaires de la région de Montréal qui sont vétustes à 100 % selon un document datant de janvier du ministère de l'Éducation obtenu par le journal. Il y en a 5 en tout. Dans la région métropolitaine, plus du quart des bâtiments d'écoles primaires ou secondaires obtiennent la pire note possible à ton compilé à partir du document. Il s'agit d'un E pour très mauvais qui correspond à un taux de vétusté de 30 % ou plus. À Laval, ce portrait est déjà complété, explique Louise Lortie, présidente de la commission scolaire. Résultat, la majorité des écoles obtiennent un E. Il n'y a toutefois aucun danger pour la santé ou la sécurité des enfants, indique le ministère et les commissions scolaires. Ce qui donne des maux de tête aux dirigeants, c'est la surpopulation, avoue Mme Lortie, car ils doivent relocaliser les élèves de l'école démolie pendant les travaux, alors qu'il manque déjà de classes. Pendant ce temps, les commissions scolaires s'arrachent les entrepreneurs pour qu'ils réalisent tous les travaux pendant l'été, ce qui semble faire monter les prix sur le marché, observe Denis Riopel de la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles. Centaines de milliers de dollars en pots de vin, l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille et sa bande, arrêtés en mars dernier, auraient reçu des centaines de milliers de dollars comptant en pots de vin de la part d'entrepreneurs qui faisaient affaire avec la ville. Un des participants au stratagème allégué parle même d'une petite mafia. De nouveaux documents policiers obtenus par notre bureau d'enquête révèlent l'ampleur de la corruption alléguée, qui ne se limiterait pas seulement aux voyages, aux billets de spectacle et aux rénovations du chalet du maire. Ainsi, l'octroi de nombreux contrats publics dans cette ville de la Rive-Nord se serait monnayé contre une ristourne de 3 à 5 sur la valeur des ententes remises à l'hôtel de ville sur le bureau de l'ancien chef de cabinet du maire, Daniel Bellec. C'est la première fois qu'une enquête de l'unité permanente anticorruption fait état de ristournes aussi élevées dans une municipalité. Par comparaison, à Montréal, l'ex-collecteur de fonds du maire, Gérald Tremblay, était surnommé « Monsieur 3 %, tandis qu'à Laval, l'ex-maire Gilles Vaillancourt a été envoyé en tôle pour avoir exigé des pots de vin de 2 %. Jean-Marc Robitaille, Daniel Bellec, l'entrepreneur Normand Trudel et l'ex-DG Luc Papillon ont été formellement accusés hier d'abus de confiance et de corruption dans les affaires municipales. La cause reviendra au tribunal le 28 juin. Les allégations contenues dans les documents policiers n'ont pas été testées devant les tribunaux. Le château de Maxime Rémillard pourrait être vendu à l'enchère. La résidence de prestige de Maxime Rémillard à Saint-Mathieu-de-Belleuil en Montérégie sera mise en vente à l'enchère publique le 14 juin si le grand patron du groupe V Media et de Remstar ne règle pas une facture de 42 800 $ de taxes municipales et de frais administratifs. Lors d'un bref échange téléphonique, l'adjointe de M. Rémillard a pourtant évoqué une erreur de la ville et assuré que la résidence ne sera pas vendue aux enchères. Maxime Rémillard n'a pas rappelé le journal. Une action collective a été autorisée contre Samsung pour dédommager les propriétaires de laveuses défectueuses qui sont susceptibles d'exploser. Le recours vise des laveuses à chargement vertical Samsung ou Kenmore fabriquées entre le 1er mai 2011 et le 31 octobre 2016. Quelque 256 000 de ces appareils ont été vendus au Canada. Il y a une vibration très élevée qui fait en sorte que le couvercle peut sauter. Sur le lot, 67 incidents où le couvercle s'est détaché ont été signalés à Samsung au Canada. De ces cas, 11 ont entraîné des dommages matériels, mais aucune blessure n'a été déclarée. Option consommateur considère que même si Samsung a mis en place un rappel, il n'est pas suffisant pour régler le problème. Les partis d'opposition ont unanimement dénoncé la décision du gouvernement Couillard de conférer l'exclusivité de la pêche au saumon au nord du Québec à une poignée de pourvoiries privées qui n'offrent que des forfaits coûtant près de 2 000 par jour. L'exclusivité de la pêche au saumon dans le nord du Québec a été cédée à des pourvoiries de luxe pour aider les Inuits à protéger leur territoire ancestral, plaide Luc Blanchette, en pointant ainsi un autre motif que celui avancé par son ministère. M. Blanchette se faisait questionner par le péquiste Alexandre Cloutier à la suite d'un reportage du journal révélant que le gouvernement Couillard a conféré en douce l'exclusivité de la pêche au saumon au nord du Québec à une poignée de pourvoiries privées qui n'offrent que des forfaits coûtant près de 2 000 $ par jour et même plus. Pourtant, son ministère indiquait la veille que ce qui justifie réellement la décision, ce sont des considérations de nature faunique. Le statut du saumon atlantique est jugé préoccupant partout au Québec, sauf au Nunavik, car les données sur les captures n'y sont pas suffisantes. Les pourvoyeurs seraient plus aptes à envoyer des données de qualité à l'État, selon le ministère. Et finalement, un recours collectif a été déposé hier devant la Cour supérieure de l'Ontario au nom des Canadiens dont les données ont été amassées par Cambridge Analytica sur Facebook, dont on apprend la faillite aujourd'hui, a rapporté le Toronto Star. Ce recours, qui doit encore être approuvé par un juge, a été déposé alors que la société britannique Cambridge Analytica a annoncé sa fermeture hier. L'entreprise s'était retrouvée au cœur d'un scandale mondial lorsqu'il a été révélé qu'elle collectait des données sur des comptes Facebook. Au Canada, ce sont quelque 622-161 adeptes du réseau social qui auraient vu leurs données être récoltées. Les demandes réclament maintenant à Facebook des dommages punitifs de 100 $ par personne, soit un peu plus de 62,2 millions.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. A tué le printemps, tout tout est fini pour nous de maintenant.
Le facteur de Georges Moustaki, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur Moustaki, vous avez 84 ans aujourd'hui. Effectivement, merci Hélène, j'ai mal formulé ma phrase, il aurait eu 84 ans aujourd'hui.
À la une de la Tribune pour amorcer la tournée des journaux régionaux, la philosophie pour tous, Samuel Réaume. Un cours de philosophie pour tous a été donné par Véronique Grenier au POC Ébière. Il s'agissait du premier cours de la session de l'Université populaire de Sherbrooke, UPOPS, et ce fut l'occasion pour plusieurs de jouer aux étudiants une bière à la main. Pour l'occasion, la population sherbrookoise s'est déplacée en très grand nombre et a rempli la microbrasserie dans une ambiance des plus conviviales. Ce qui a contribué à créer un environnement similaire à une salle de classe, à la seule différence de pouvoir y siroter son breuvage préféré. C'est tout dans l'esprit de ce que représente l'UPOPS, l'Université populaire de Sherbrooke. Nous sommes fiers d'offrir des cours sans salle de classe, sans examen, sans devoir payer, a affirmé Sondaise Halal, une des femmes derrière l'UPOPS. Nous croyons que l'éducation est pour tous et c'est dans le plaisir que nous développerons le savoir, a-t-elle ajouté en début de soirée. L'événement offert en partenariat avec la Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue a été un franc succès. Le tout premier cours a été mené avec brio par Véronique Grenier, enseignante en philosophie au Cégep de Sherbrooke. L'objectif de cette première séance était d'établir quelques fondamentaux de la philosophie dans le but de développer un esprit critique face à l'abondance d'informations que l'on reçoit tous les jours. La raison pour laquelle suivre un cours de philosophie et continuer de développer ses compétences en philosophie est aussi important. C'est parce qu'on est confronté au quotidien à beaucoup d'informations, a expliqué Mme Grenier avant de proposer un exercice de lecture en plénière portant sur une fausse nouvelle. Elle présente la quête de la vérité comme étant essentielle à une saine démocratie. C'est exactement ce qu'elle décortique tout au long de son cours en abordant au passage la philosophie grecque de Socrate à Épictète. La philosophie est un outil d'une très grande importance pour quiconque participe à la vie en société. À l'ère du numérique, alors que certaines pages du cyberespace relaient des informations mensongères, il est crucial de se prémunir contre les fausses nouvelles. C'est ce que tenait à rappeler Félix Morin, enseignant en technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Sherbrooke. « La philosophie est importante pour tous, il n'y a pas d'âge pour continuer d'apprendre », devait-il ajouter. Alors que la soirée tirait à sa fin, Mme Grenier a suggéré quelques lectures à ses nombreux élèves, tous absorbés par les paroles de l'enseignante. Il est évident que la table est mise pour le deuxième cours qui aura lieu le mercredi 16 mai à 17h au Boc et Bière. Mme Grenier se lancera alors dans l'art d'argumenter et de problématiser. Il faut être content de ne pas tout savoir, car cela signifie qu'un monde de connaissances nous attend. A-t-elle lancé, voilà, quelque chose sur lequel méditer avant le prochain cours. Marie-Ève Croteau, une lionne résiliente, c'est un article de Jean-Nicolas Patoine dans Le Soleil. Si la malchance de Marie-Ève Croteau est quasi légendaire, sa résilience devrait l'être encore plus. Dans les derniers mois, la paracycliste a ajouté l'attaque d'une bactérie mangeuse de chair à sa longue liste de mésaventures. Et ça ne l'a pas empêché mercredi d'affirmer avec aplomb qu'elle allait enfin décrocher une médaille olympique en 2020. Depuis les Jeux de Rio, j'ai probablement passé plus de temps à l'hôpital que chez moi. J'ai failli mourir à quelques reprises. Je pensais avoir tout vu, bien honnêtement, a raconté Croteau en marge d'une conférence de presse de la Fédération québécoise des sports cyclistes pour lancer la saison. La nouvelle saison. La cruelle bactérie lui a fait perdre l'usage de son bras gauche, déjà diminué par un accident de la route subi à 14 ans. Entre ces deux épreuves, toute une série d'autres malchances. En 2010, un virus lui prend sa jambe gauche. En 2012, une commotion cérébrale subie à Bécomo l'empêche de participer aux Jeux olympiques de Londres. 3 ans plus tard, un test à l'effort la plonge dans le coma pendant 5 jours. Elle se réveille et se relève, direction Rio. Mais quelques semaines avant le début des Jeux olympiques de 2016, elle se fait voler les 2 vélos spécialement conçus pour elle. Dans la même période, elle subit une série d'infections qui mettent sa présence au Brésil en péril. Elle décrochera finalement une 4e place à Rio sous antibiotiques avec un cathéter inséré dans une veine. Quelques mois plus tard, en avril 2017, elle annonce son retrait de la compétition pour 1 an. Sa santé est trop vacillante. Elle doit débarrasser son corps des bactéries qui l'habitent. Et c'était avant la visite de la mangeuse de chair en juin. Évidemment, j'ai pogné la plus virulente, la plus méchante, la plus agressive. Un peu comme moi, agressive sur la route, rigole Croteau, 38 ans. Elle subit un total de 7 opérations. Mais la lionne en Croteau n'a jamais cessé de rugir. Celle qui a toujours accepté de souffrir par choix à l'entraînement, même si elle a beaucoup souffert le reste du temps. Tu te dis tout le temps, après tout ça, est-ce qu'elle aura encore ce désir de se surpasser? Demande son entraîneur, Eric Van Den Eynde. Elle l'a toujours. Maintenant que j'ai vu ça, c'est facile pour moi de prédire que oui, on aura du succès. Mercredi, Croteau était au sourire et débordait de confiance. Elle n'a pourtant repris la compétition que la fin de semaine dernière, décrochant 2 troisièmes places en autant de courses mixtes à Montréal. Depuis le début de son retour progressif à l'entraînement, elle se surprend elle-même par sa bonne forme physique, ce qui l'amène à parler de Tokyo et de 2020. « On a réglé tous les problèmes de santé. Je ne regarde plus en arrière, je regarde en avant. Les Jeux de Tokyo, c'est vraiment l'objectif. » Là, c'est de mettre la main sur la fameuse médaille. C'est la seule qui me manque. J'ai toutes les autres, mais elle, ça me la prend. Et je vais l'avoir, affirme celle qui n'a jamais cru sa carrière en vélo terminée, même lorsque sa vie ne tenait qu'à un fil. La chance de Croteau est-elle en train de tourner? Peut-être bien. À la blague, des médecins m'ont dit que je devrais peut-être me mettre à la loto. Depuis ce temps-là, avec mon fiancé, on joue à la 6-49 et on prend les dates des grosses malchances. « Écoute, j'ai pas gagné le million, mais ça va bien quand même », conclut-elle dans un éclat de rire. Dans le droit, année record pour le tourisme à Ottawa en 2017, plus de 11 millions de visiteurs sont venus dans la capitale l'an dernier. L'augmentation marquée est attribuable aux festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le quotidien glissement de terrain à Lens-Saint-Jean, la cour arrière d'une maison privée de la rue Saint-Jean-Baptiste à Lens-Saint-Jean a subi une transformation extrême mercredi après-midi à la suite d'un glissement de terrain. Les résidents ont été évacués, mais personne n'a été blessé. La cour arrière d'une maison privée de la rue Saint-Jean-Baptiste à Lens-Saint-Jean a subi une transformation mercredi après-midi. Les dommages les plus importants ont touché la cour du 160 rue Saint-Jean-Baptiste et la maison du 158 de la même rue, a été évacuée. La construction récente est située juste en haut de la montagne. L'événement a été signalé en début d'après-midi. Les résultats devraient être connus jeudi, mais une chose est sûre, les propriétaires évacués ont dû se trouver un autre endroit pour passer la nuit de mercredi à jeudi. Alors on procédera, c'est le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports qui est donc arrivé sur les lieux pour procéder à l'analyse des sols, une équipe d'experts en géotechnique de ce ministère. Vous écoutez le quotidien des quotidiens de ce jeudi 3 mai. Est-ce que le 3 fait le mois? On verra cela. On s'en reparlera le 3 juin.
What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I was calling on you. I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out. The fires in my soul, 'cause I need you here. Whoa, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go.
Est-ce que vous avez reconnu la voix de Céline Dion, morceau inédit qui est lancé aujourd'hui? Alors, la chanson s'intitule « Hacheuse, cendre » et est tirée du film de super-héros Deadpool 2 qui sort en salle le vendredi 18 mai. Et il y a un vidéoclip aussi qui accompagne cette chanson. Il s'agira d'un premier vidéoclip en 5 ans. C'est ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal sous la plume de Marc-André Lemieux. Donc, pour Céline Dion, son dernier remonte à 2013 pour Incredible, un duo avec Ne-Yo, tiré du disque Loved Me Back to Life. En 2015, elle était apparue dans celui de l'hymne, une collaboration avec Fred Pellerin, extrait du film La guerre des tucs 3D. Mais c'était un collage d'images captées durant l'enregistrement du morceau en studio. Céline Dion doit reprendre sa résidence au Caesars Palace le 22 mai. Son emploi du temps prévoit aussi une tournée en Asie qu'elle amorcera à Tokyo le 26 juin.
Thank you.
Une exclusivité dans la presse sous la plume de Hugo Dumas, chronique télé. Pendant que les champs brûlent, c'est le titre de sa chronique. Le titre de cette chronique n'est pas de moi, c'est ce qu'il écrit. Il s'agit d'un joli jeu de mots avec la chanson classique du groupe français Niagara qui a servi de titre de travail à une nouvelle comédie dramatique pondue par l'actrice et auteure Florence Lompré, « Like moi, les pays d'en haut ». Cette télésérie produite par Trio Orange et achetée par Télé-Québec génère un gros buzz, me rapporte des taupes bien renseignées. Elle met en scène trois femmes pauvres provenant de milieux défavorisés, un univers que la télévision québécoise dépeint rarement avec humanité et réalisme. Précision ici, cette émission de fiction ne ressemblera pas ni au Bougon, ni au La Vigueur, ni à un feuilleton misérabiliste selon mes infos. Ces trois femmes fortes ne dramatisent pas leur situation et ont développé un système D d'une rare efficacité. Elles ne désirent pas non plus faire pitié, juste pouvoir déposer un souper sur la table à la fin de la journée. Pour ramasser des sous, les trois amies chantent dans le métro, d'où le titre temporaire de la série « Pendant que les champs brûlent ». Sans doute pour une question de droit d'auteur, la série s'appelle aujourd'hui « M'entends-tu ?» après s'être temporairement intitulée « Tu dors, je veille ». Vous suivez encore? Parfait. C'est Myriam Bouchard, l'échappée, qui a été choisie pour réaliser les dix demi-heures de « M'entends-tu ?» Point d'interrogation. Florence Lompré, Gabi Gravel de « Like moi » et Ève Landry, Unité 9, incarneront deux de ces femmes multipoquées mais résilientes et attachantes. Le troisième rôle principal de « M'entends-tu ?» a été écrit pour une femme haïtienne de taille forte et devait être jouée par la comédienne Fabiola Aladin, que l'on a vue dans la pièce de théâtre Sylvie M. Maurice, créée par Florence Lompré. Pour une raison inconnue, Fabiola Aladin n'a pas été prise, et des auditions ont été orchestrées pour repêcher la perle rare. C'est la chanteuse Mélissa Bédard, découverte à Star Academy 2012, qui complétera le trio. Télé-Québec a confirmé développer un projet avec Florence Lompré sans en dévoiler davantage. Tenue au secret, l'agente de Florence Lompré, Corinne Giguère, n'a pas voulu en dire davantage. « J'ai bien hâte, écrit Hugo Dumas, de voir les premiers épisodes de « M'entends-tu » que Télé-Québec pourrait relayer à l'automne. Le sujet de la série est riche et original. Enfin, le petit écran montrera autre chose que des trentenaires qui enfourchent des vélos hollandais et qui capotent sur les vins nature. » Humoriste en 100 minutes, le chiffre en jette, le Grand Montréal Comedy Fest lancera sa première édition avec une grande fête rassemblant 100 humoristes au Théâtre Olympia le 1er juillet. Issus de tous les horizons, ceux-ci enfileront les punchs sans coup férir pendant 100 minutes top chrono. Le nouveau rendez-vous de l'humour a aussi annoncé mercredi, lors d'un événement où se trouvait notamment Martin Petit, deux nouvelles soirées tardives à l'Olympia le vendredi 6 juillet avec G. Dutemple, et le vendredi 13 juillet avec Rosalie Vaillancourt. À noter que trois antennes s'allumeront à Saint-Eustache, à Montréal et à Châteauguay, où seront présentés en simultané deux spectacles-événements. C'est sur la présentation intégrale du « Roméo et Juliette » de la compagnie américaine Ballet Met que s'ouvrira le 27e Festival des arts de Saint-Sauveur le 2 août prochain. Le tandem formé par Guillaume Côté et Étienne Lavigne saluera les 50 ans du Toronto Dance Theatre, de même que les 40 ans de la Hubbard Street Dance Chicago, sous la direction artistique de Glenn Edgerton. Guillaume Côté foulera la scène avec les danseurs du Ballet national du Canada avec sa plus récente création « Homo sapiens ». La musique sera très présente dans la programmation avec notamment l'Orchestre métropolitain de Montréal dirigé par Yannick Nézet-Séguin dans un programme dédié à Tchaïkovski et le groupe Yemen Blues dont le jazz servira de bougie d'allumage aux créations de trois chorégraphes. Tout Saint-Sauveur sera enfin appelé à jouer des pieds et des hanches lors des Jeudis Tango, des vendredis swing et des samedis trad. Le Cirque Alphonse présentera sa pièce acrobatique et musicale intitulée « Tabarnak » avec un K au Théâtre Bobineau de Paris à partir du 16 mai, a confirmé son fondateur Antoine Carabinier-Lépine. Les acrobates d'Alphonse, qui partagent la scène avec le trio de musique électro-trad de David Simard, y présenteront leur messe à gogo surréaliste jusqu'au 9 juin. La troupe de cirque de Saint-Alphonse-Rodrigues participera également au réputé Festival grec de Barcelone en juillet. Les 6 interprètes de Tabarnak s'en iront ensuite au Fringe Festival d'Édimbourg au début d'août, où se produiront également les 7 doigts de la main et Flip Fabric. La galerie de l'UQAM et sa directrice Louise Derry nous convient à une passionnante expérience avec l'exposition 150 ans, 150 œuvres, l'art au Canada comme acte d'histoire mise en ligne hier et pour 5 ans. Une immense galerie d'art visuel qui offre un regard sur l'héritage pictural canadien. Avec une loupe qui permet d'apprécier les détails de chaque œuvre, des capsules, un jeu questionnaire, un index des artistes et des fiches explicatives intéressantes dans un commissariat de José Desforges. Une initiative très bienvenue. Le musée de la Gaspésie a ajouté en ligne 3200 images numérisées tirées de ses archives. Ce sont donc désormais 4000 documents iconographiques, surtout des photos, qui sont accessibles sur la toile. Le site permet de fureter à travers les albums classés en 24 thèmes, alimentation, architecture, foresterie, musique, théâtre, tourisme, etc., ou de faire des recherches par mots-clés. Une brève notice explique en une ligne chaque image. L'accès se fait par le truchement de l'adresse archive.museedelagaspésie.ca. Et il n'y a pas que Céline qui lance une nouvelle chanson, il y a aussi Christina Aguilera qui a annoncé qu'elle ferait paraître quelque chose de nouveau. Et aussi, à quelques jours de la grande finale de La Voix, Alex Nevsky lance aujourd'hui la chanson « Amour immodéré », premier extrait de son 4e album, un premier pas vers son retour sur disque prévu à l'hiver 2018. On écoute la chanson à Canal M.
Qui se réveille, je t'ai dévoré jusqu'au bout. 4 jours et 3 nuits, sans penser à mon téléphone. Tes yeux sont comme un abri, un jeu quand le réveil est mort. On dansera même si la musique s'éteint, se regardera même si la lumière s'éteint. On se moquera chacun de nos secrets, s'endormira même si le soleil revient. On dansera même si la musique s'éteint, se regardera même si la lumière s'éteint. On se moquera chacun de nos secrets, s'endormira même si le soleil revient.
Bébé, on ne devrait plus bouger. Si l'amour nous cherche, il saura où nous trouver. Bébé, on ne devrait plus bouger.
toucher à mon téléphone. Soit mon amour, mon ami, soit l'amour sans qu'on le nomme. On y sera même si la musique s'éteint, se regardera même si la lumière s'éteint. On se moquera chacun de nos secrets, s'endormira même si le soleil revient. On y sera même si la musique s'éteint, se regardera même si la lumière s'éteint. On se moquera chacun de nos secrets, s'endormira même si le soleil revient.
C'était donc Alex Nevsky qui chantait cette nouvelle chanson intitulée « Amour immodéré » sur les ondes de Canal M de Vues et Voix. Sujet libre. Après Obama, un prix Nobel pour Trump? Point d'interrogation. C'est un article de Jérôme Cartillier de l'agence France Presse à Washington et c'est un article qu'on peut lire dans Le Devoir d'aujourd'hui. Une décennie après Barack Obama, Donald Trump pourrait-il se voir décerner le prix Nobel de la paix pour sa gestion de l'épineux dossier nord-coréen? L'idée même poussée par une poignée d'élus républicains fait bondir ses détracteurs aux États-Unis et au-delà, et laisse nombre d'observateurs sans voix, tant ce débat apparaît prématuré. Reste que cette petite musique est douce aux oreilles de l'homme d'affaires septuagénaire, arrivé au pouvoir sans la moindre expérience politique, militaire ou diplomatique et dont la soif de reconnaissance n'est plus à démontrer. « C'est très gentil, merci, c'est très gentil », a-t-il répondu samedi, tout sourire à ses partisans dans le Michigan qui scandaient « Nobel, Nobel ». « Je veux juste faire le boulot », a-t-il ajouté, non sans avoir prononcé lui-même ravi le mot « Nobel » comme pour mieux le savourer. C'était très généreux de sa part de faire cette déclaration, a-t-il lancé mardi depuis le bureau ovale, évoquant les propos du président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, qui a laissé entendre que le locataire de la Maison-Blanche pouvait avoir la prestigieuse récompense à sa place. « Le principal est d'y arriver », a-t-il aussi ajouté. L'ouverture enregistrée dans la péninsule coréenne, l'approche d'un sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et l'hypothèse d'une éventuelle dénucléarisation sur laquelle tout reste à faire, nourrissent de fait l'espoir d'un tournant historique dans cette partie du monde. Mais aussi spectaculaires que soient les images et les symboles, nombre d'analystes soulignent qu'il est tôt, très tôt, trop tôt, pour spéculer sur l'issue des négociations en cours avec le régime dirigé d'une main de fer par la dynastie des Kim depuis près de 70 ans. Pour Aaron David Miller, ancien diplomate et négociateur dans plusieurs gouvernements démocrates comme républicains, les discussions sur l'attribution du prix Nobel à Donald Trump ont un côté surréaliste, tant elles sont prématurées. Mais si la diplomatie va dans le bon sens, c'est un scénario concevable, explique-t-il à l'AFP, l'agence France-Presse. Un climat politique délétère. Sur le fond, ces spéculations renvoient au débat passionné sur le rôle exact du président américain dans l'ouverture diplomatique en cours. Des deux côtés, les raisonnements sont poussés jusqu'à l'absurde. Soit en affirmant que le président des États-Unis n'a joué aucun rôle dans ce qui se passe dans la péninsule coréenne, soit en lui attribuant absolument tous les mérites de l'évolution en cours. Au-delà d'un climat politique dans lequel il est devenu quasiment impossible pour un parti de saluer les succès d'un autre, la personnalité de Trump et son incapacité à penser en termes de « nous » plutôt que « je » renforcent encore les antagonismes, relève Aaron David Miller. L'aversion des démocrates à l'idée qu'on lui attribue le Nobel est étroitement liée, ou plutôt mêlée, à leur aversion pour lui, souligne-t-il. Pour les fervents partisans de Donald Trump, le sommet historique à venir, totalement inimaginable il y a quelques mois, est la preuve que ce président au style volontiers abrupt peut casser les codes, faire bouger les lignes, réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Un groupe d'une vingtaine d'élus républicains a adressé mercredi un courrier au comité norvégien du Nobel, lui demandant d'examiner le cas de Donald Trump pour 2019 en reconnaissance de son travail sans relâche pour apporter la paix dans le monde. Pour ses farouches opposants, à l'inverse, les actes de sa jeune présidence, sa remise en cause de nombre de piliers du multilatéralisme, mais aussi ses mots, son style, ses diatribes, devraient le disqualifier à l'avance dans la course au Nobel. L'attribution du célèbre prix à son prédécesseur démocrate Barack Obama, quelques mois seulement après sa prise de fonction, avait suscité la surprise et de vives réactions. « Je suis au début et non à la fin de mes travaux sur la scène mondiale », lançait-il le 10 décembre 2009 à Oslo, reconnaissant d'entrée la controverse considérable suscitée par cette récompense surprenante à l'aube de son premier mandat. Au-delà de Barack Obama, trois autres présidents américains ont déjà reçu le prestigieux prix, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson et Jimmy Carter. Dans l'attente du sommet Trump-Kim et des tractations diplomatiques longues et difficiles qui s'annoncent, certains optent pour l'humour. Dans le Washington Post, l'éditorialiste Dana Milbank s'est amusé à imaginer le discours d'acceptation de Donald Trump le 10 décembre 2018 à Oslo, reprenant ses tics de langage. « Ceux qui me détestent et qui mentent disent que je ne mérite pas cette récompense. Faux. J'ai été vraiment très intelligent quand j'ai fait la paix avec Rocketman. En le traitant de petit gros et en disant que je le détruirais complètement par le feu et la colère avec mon gros bouton nucléaire, je l'ai forcé à négocier. » Le sort du prix Nobel de littérature 2018 sera connu vendredi. Stockholm, l'Académie suédoise, annoncera vendredi, donc demain, sa décision de différer ou non l'attribution du prix Nobel de littérature 2018. Selon sa directrice administrative, l'institution est tant dans la tourmente depuis la révélation d'accusations de viol et d'agression visant le mari d'une académicienne. L'Institut est en crise depuis novembre, date à laquelle le quotidien suédois de référence Dagens Nyheter a publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un Français marié à l'académicienne Katarina Frosteson, en retrait depuis. 7 des 8 académiciens, dont la secrétaire perpétuelle en exercice, Sarah Danius, ont annoncé abandonner leur fauteuil ces dernières semaines. Ces récents retraits réduisent donc à 11 le nombre d'académiciens actifs. Or, ces statuts imposent la présence de 12 élus. Dans la presse, l'agriculture animale ne marche pas en ville. Odeur de fumier, maladies comme la gale, elle, déplumée et soins à prodiguer, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA, anticipe un problème de poules abandonnées au Québec. Avec l'arrivée du mois de mai, le phénomène d'adoption des poules urbaines promet de revenir en force à Montréal. Le fabricant de poulaillers clé en main, Poc Poc, partenaire du projet pilote dans Rosemont, la petite patrie, lance cette semaine une version améliorée permettant de garder les volatiles durant tout l'hiver. La jeune entreprise espère que 300 familles se lanceront dans l'aventure des poules pondeuses cette année, a appris la presse, comparativement à 50 familles adoptives dispersées un peu partout autour de Montréal l'an dernier. À la SPCA de Montréal, rue Jean-Talon-Ouest, le coq Tommy est devenu bien malgré lui la mascotte du refuge, explique-t-on. La directrice générale de la société et chercheuse indépendante Élise Desauniers explique que le coq nain au plumage blanc et noir a été rescapé de justesse des rues de Montréal. L'organisme craint des dérapages comme dans certains quartiers de Miami, où l'escouade Chicken Buster a repris ses activités de plus belle pour stopper les évasions de poules et de coqs lâchés libres. Là-bas, des dizaines de volatiles sont capturés chaque semaine. Notre coq Tommy était probablement un petit poussin né dans un couvoir destiné à louer juste des poules. Mais comme il est quasi impossible de différencier un coq d'une poule à la naissance, on peut présumer qu'une famille s'est retrouvée avec un coq. Normalement, les coqs finissent broyés vivants dans les usines d'élevage parce que personne n'en veut. Il faut comprendre qu'il faut au moins 4 poules pour un coq, sinon le coq devient agressif. Ce sont des oiseaux bruyants, mal commodes à garder en ville. Depuis un an, Mme Desaulniers affirme avoir recensé pas moins d'une trentaine de volatiles abandonnés, dont 10 coqs. Elle s'attend à un nombre croissant cette année. La souveraineté alimentaire est un rêve, mais l'agriculture animale ne marche pas en ville, c'est facile de déchanter. Après 2 ou 3 ans, la production d'œufs d'une poule chute rapidement. Avec les frais vétérinaires, le coût d'un seul œuf peut facilement atteindre 2 $, soutient-elle. Alex McLean, cofondateur de l'entreprise d'adoption de ruches en ville Alvéole et partenaire d'affaires de Poc Poc, souligne qu'il est important de ne pas se lancer dans l'aventure des poules sans peser le pour et le contre. Il faut relativiser. Un chien nécessite plus de temps qu'une poule et la connexion avec les poules peut devenir aussi forte qu'avec un chien ou un chat. Moyennant un investissement d'environ 1 500 $, les familles qui choisissent Poc Poc achètent un poulailler tout inclus, insonorisé, isolé pour l'hiver, incluant du grillage pour les prédateurs, avec un minimum de 2 ou 3 poules. L'ensemble de départ comprend aussi les services de fermiers certifiés, de la moulée et des écailles d'huîtres afin d'assurer une belle qualité aux coquilles d'œufs. Voilà, c'est tout pour les quotidiens, ou plutôt le quotidien des quotidiens de ce 3 mai. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été attentif et à l'écoute. Je vous souhaite une agréable journée. Restez avec nous. Si vous nous écoutez en direct, j'anime l'hyperactualité. J'aurai entre autres invité Bob, le chef, qui nous parlera d'une émission de cuisine où il a bandé ses yeux. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical.